Salut à tous, bienvenue au Phoenix Podcast. Aujourd'hui, sujet très intéressant en compagnie de mon associé Jérôme. Comme d'habitude, on parle de la prise de masse musculaire. Principalement, on l'a segmenté en, premièrement, je parle de la synthèse des protéines et son importance dans la prise de masse musculaire. Jérôme parle de l'entraînement, en fait des liens sur l'entraînement, le RPE, l'intensité, la fréquence, etc. Je parle du rôle du surplus calorique dans la prise de masse musculaire. Jay parle de l'importance des protéines et de la leucine particulièrement. Je parle du sommeil et de la récupération et on close le sujet sur des suppléments que vous pouvez utiliser pour développer de la masse musculaire. Donc, bonne écoute!
Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Phoenix Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Samuel. Ça va, Sam?
Ça va bien, toi?
Ouais, ça va super bien. On parle d'un sujet qui est super intéressant. C'est un sujet qu'on se fait souvent poser la question. Puis tu sais, 90% de notre clientèle sont ici chez Phoenix pour perdre du poids, pour optimiser leur bien-être et tout. Mais un point après la perte de poids qui est souvent intéressant, c'est l'hypertrophie musculaire, juste l'optimisation corporelle, être capable d'aimer le corps qu'on a. Fait que toutes les femmes aiment la tonification musculaire, avoir un corps solide et toutes les kits, se sentir un peu plus forte et musclée. Fait qu'aujourd'hui, on embarque dans le vif du sujet et on va parler de la prise de masse musculaire. Fait que ça va faire différent de nos sujets habituels de la perte de poids. Fait que Sam, on a beaucoup, beaucoup de matière à dire aujourd'hui. Tu vas nous parler dans le fond du premier sujet qui est la synthèse des protéines, être capable de bien expliquer comment les principes, autant au niveau alimentaire que les principes physiologiques, vont nous apporter à prendre la masse musculaire. Je te laisse commencer là-dessus.
Oui, en fait, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bâtir du muscle, tu dois créer ce qu'on appelle la synthèse des protéines. Puis la synthèse des protéines, c'est quoi? C'est un processus physiologique par lequel les cellules construisent des protéines à partir d'acides aminés. Et on entend souvent parler d'acides aminés.
On en avait parlé la dernière fois, oui.
Je me rappelle pas.
On avait parlé des protéines, puis on avait tout segmenté les acides aminés par un.
Ben oui, puis le peu, c'est que c'est le dernier podcast qu'on a lancé.
Exactement.
Le podcast 8 de la saison 1, ouais. Importance des protéines. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, puis je reviendrai pas le temps là-dessus, mais juste pour les besoins de la cause, pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté sur l'importance des protéines. Dans le fond, une protéine est faite d'une chaîne d'acides aminés. Si jamais vous voulez en savoir plus, allez écouter l'autre podcast qu'on avait fait.
Ça va vraiment être bon.
Mais justement, la synthèse des protéines, c'est le processus par lequel tous les acides aminés se lient et créent justement des protéines. Okay. Et la prise de masse musculaire est directement reliée ou étroitement reliée avec la synthèse des protéines. Parce que si tu n'as pas de synthèse des protéines, tu n'as pas de nouvelle construction de tissu musculaire, tu ne peux pas avoir de prise de masse musculaire si la synthèse des protéines ne se fait pas.
Donc, okay? La synthèse des protéines, c'est de créer dans ton corps des nouveaux matériaux, des nouveaux tissus.
Exactement, okay. Tu as tout compris. C'est la meilleure façon de le résumer. À base d'acides aminés. Et souvent, quand on parle d'acides aminés, les gens font un lien beaucoup sur les BCAA. On va revenir tantôt, je pense, tu vas parler justement des suppléments. C'est pas nécessairement juste des BCAA, parce qu'il y a plein de sortes d'acides aminés. Les BCAA, c'est trois en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la synthèse des protéines, c'est la base quand on parle de prise de masse musculaire. Okay? Et là, ce que j'avais sorti, que je trouvais super intéressant, c'était une étude, dans le fond, qui démontrait que, parce que vous avez sûrement déjà eu le phénomène, ben pour ceux qui s'entraînent, ou nous, on l'a vécu, Jay, ou avec l'expérience client qu'on peut avoir, quand on commence à s'entraîner, on va dire débutant, on bâtit de la masse musculaire rapidement. Si tu t'entraînes bien puis tu manges comme il faut, là, puis même si tu manges pas tant, ouais, c'est ça, exactement, même si tu t'entraînes mal, parce que la synthèse des protéines, justement, est très, je vais l'expliquer, est très, très longue, versus quelqu'un qui est très avancé, ou un expert, ou un peu importe, ça fait longtemps que tu t'entraînes, la synthèse des protéines dure moins longtemps. Et ce que j'avais sorti, c'est que la synthèse des protéines continue jusqu'à environ 24 à 48 heures pour ceux qui s'entraînent régulièrement, versus jusqu'à 72 heures pour ceux qui commencent à s'entraîner. Et la raison principale, c'est que les muscles sont plus efficaces pour réparer et construire les tissus pour ceux qui s'entraînent. Donc, tu récupères plus vite, mais ta synthèse des protéines dure moins longtemps, donc ta prise de masse musculaire est plus difficile que si tu es un débutant. Tu sais, ouais, vas-y.
C'est intéressant que tu parles de la synthèse des protéines parce que tu sais, tu fais une introduction sur le sujet avant de te laisser embarquer là-dedans, mais je voulais juste dire à nos auditeurs, on parle de la synthèse des protéines actuellement. Si jamais c'est un nouveau terme que vous avez jamais entendu, on va créer des liens avec ça tout au long du podcast parce que je vais en parler sans vous en parler, mais c'est bien important de comprendre le principe de développement musculaire qui passe par la synthèse des protéines. Fait que tu fais bien de le citer au début puis de parler de ça directement en partant. Je voulais juste le dire à nos internautes.
Je pense que c'est la meilleure façon de faire l'introduction parce que tu sais, ça peut paraître compliqué, mais comme, tu sais, nous, dans le fond, le but du podcast, c'est pas juste de dire faut que tu t'entraînes, tu manges, tout le monde le sait, c'est quoi qu'il faut faire au bout de la ligne, c'est d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe derrière ça.
Absolument.
Quand même assez simple, pareil. Puis dans le fond, juste pour bien comprendre le concept de la synthèse des protéines, il existe une protéine particulière qu'on appelle le mTOR. Tu avais sûrement déjà entendu parler de ça. Le mTOR, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une protéine. C'est elle qui stimule la synthèse des protéines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois, voire on va dire quatre façons spécifiques d'activer cette synthèse des protéines-là ou le mTOR qui, elle, stimule la synthèse des protéines. Et les quatre, c'est quoi? Un, l'exercice physique. Et là, quand j'ai exercice physique, c'est pas... J'ai rien contre prendre des marches. Je prends des marches moi aussi. Mais... Je ne rentre pas ça là-dedans. Quand je parle d'exercice physique, je vais aller plus spécifique. C'est la musculation. Mmh. Parce que si tu ne fais pas de musculation, tu ne peux pas développer du nouveau tissu musculaire.
On le voit souvent, c'est logique. Ça. Il y a du monde, littéralement, qui viennent nous voir, veulent se tonifier, mais ils ne vont pas faire de musculation. Ça ne marchera pas.
Tu n'as pas le choix de le faire. Oui, exactement. En fait, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas tonifier si tu n'as pas de masse.
Ouais. Je marche. Hein?
Ouais, tu sais, c'est bon. Là, j'ai rien contre la marche. C'est super bon, mais tu ne peux pas développer du muscle. Et surtout, tu ne peux pas activer la synthèse des protéines. Mmh. Première affaire, musculation. Puis là, on s'entend, c'est évident. Là, si tu écoutes un podcast aujourd'hui, c'est la prise de masse musculaire, puis tu t'attends de ne pas t'entraîner. C'est sûr, il faut que tu t'entraînes musculairement. Je pense que c'est logique. Okay? Deuxième point, les protéines. Et principalement, et je sais que tantôt, tu vas rentrer dans les protéines. Je ne sais pas si tu vas parler de ce que je vais dire là. Sinon, je vais juste le dire comme rapidement. Mais principalement, il y a un acide aminé en particulier qui stimule le plus la synthèse des protéines, et c'est la leucine, qui est un d'ailleurs des trois BCAA, là, ou des acides aminés essentiels qu'on appelle. Il y en a neuf. Mais la leucine, c'est la principale qui stimule la synthèse des protéines. Troisième affaire, les niveaux d'énergie. Et quand je dis les niveaux d'énergie, c'est plus que tu as de... je vais le dire simplement, le surplus calorique. Okay? Ouais. Fait que plus que tu as d'énergie, plus que tu stimules, puis quand on dit énergie, calorie, c'est de l'énergie, tu stimules la synthèse des protéines. Et le quatrième que tantôt, j'ai failli pas dire, mais je l'inclus parce que je pense que c'est essentiel, puis je vais y revenir tantôt sur ça, mais c'est le sommeil. Mm. Quand tu dors, tu stimules la synthèse des protéines, il y a l'hormone de croissance, il y a plein de choses qui vont se passer, mais le sommeil est essentiel également pour cette synthèse des protéines. Fait que je pense que ça résume bien. Moi, ça fait pas mal le tour au niveau de la synthèse des protéines sur le sujet.
Je vais rajouter un petit point
sur ce
point-là.
Après ça, tu partiras sur l'entraînement.
Tu sais, en soi, dans le fond, la synthèse des protéines, le développement de nouveaux tissus dans votre corps, pour ce faire, Samuel l'a précisé, il faut des protéines. Fait que ça, c'est vraiment important, mais si vous êtes en carence de protéines, inévitablement, il n'y a rien qui va pouvoir se créer, construire, réparer dans votre corps. Fait que la première étape, c'est de consommer suffisamment de protéines. Tantôt, on va en parler de la quantité spécifique qui va aller activer la synthèse des protéines à son plein potentiel. Le deuxième que tu n'as pas cité, tu l'as cité, mais très brièvement, le surplus calorique. Parce que, tu sais, on parle tellement de « faut créer un déficit calorique lors de la perte de poids ». Je pense qu'on a bombardé ça dans tous nos derniers podcasts. Mais lorsqu'on fait un développement musculaire, une tonification musculaire ou quoi que ce soit, inévitablement, le but, c'est de réussir à aller créer des nouveaux tissus. Donc, qu'est-ce qui va créer des nouveaux tissus? Du matériel en surplus. Parce que votre corps va avoir besoin naturellement d'un X nombre de calories. Exemple, toi, Sam, ton métabolisme basal est de 1800 calories. Puis, exemple, avec toute ton activité physique, compris dans ta journée, tu vas brûler 2800 calories. Admettons que tu brûles 1000. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, à partir de 2800 calories, tu stabilises ton poids. Fait que ça va être difficile d'aller créer de la masse musculaire parce que ton 2800 calories consommées, c'est ce qui va te permettre de stabiliser ton poids. 2600, 2400, 2200.
J'en parle dans le tour de ça, là.
Ouais.
Ça rentre trop dans mon sujet, là.
2400, 2200, t'es en perte de poids, mais il faut aller synthétiser, il faut aller créer du nouveau tissu, donc il faut impérativement augmenter les calories quelque part. T'en reglisseras des mots tantôt plus en détail.
Le sujet juste sur ça.
Moi, dans le fond, j'embarque dedans l'entraînement au niveau de l'hypertrophie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, on va dire, mal interpréter la façon dont comment il faut que tu t'entraînes. Tu sais, le mot entraînement, ça le dit. On s'entraîne pour quelque chose. On essaie de devenir meilleur dans quelque chose. Une personne qui s'entraîne au soccer à faire des feintes, son but, c'est d'être capable de maîtriser cette feinte-là. Une personne qui tire au basket dans le panier à des dizaines de milliers de répétitions, son objectif, c'est de venir à maîtriser ce mouvement-là. Une personne qui va bencher, le but, c'est de maîtriser la charge et de maîtriser ce mouvement-là avec ce que tu as établi comme, on va dire, restriction de ton bench. Fait que, L'entraînement, c'est de devenir meilleur jour après jour. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gens s'attendent en 3 mois à avoir des résultats d'un gars que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Fait que je vais vous expliquer ici c'est quoi les paramètres de l'entraînement qu'il faut bien comprendre et à quoi ressemble un entraînement autant pour hommes que pour femmes. Il peut avoir des spécifications X par rapport au sport que vous faites, mais quand on parle de développement musculaire, que vous avez un coach avec vous qui vous forme, qui va vraiment être là pour vous mentorer, pour développer de la masse musculaire à son plein potentiel, je vais vous donner les stratégies qui fonctionnent pour femmes et pour hommes ensemble. Il n'y a pas une grosse différence face à ça. Si on regarde en tant que tel au niveau de l'entraînement, il y a 3 données spécifiques qu'on veut réussir à prendre en compte. La première, c'est ce qu'on appelle le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement en tant que tel, c'est le nombre de répétitions et le nombre de séries que vous allez faire dans votre training. Fait que c'est simple. Si, exemple, moi, je décide de faire un squat, 5 séries de squat à 10 répétitions avec 100 livres de poids, bien, au final, je vais avoir fait un volume total de 5000 livres d'impact sur mes muscles de jambes, sur le corps, etc. Fait que mon corps va avoir levé 5000 livres. Et si, exemple, je veux réussir à m'améliorer dans cette condition-là, le lendemain ou la semaine d'après, quand je vais avoir récupéré, que je vais recommencer mon autre training de jambes, je vais essayer peut-être de faire 5 séries de 11 répétitions avec 100 livres. Fait que, impérativement, je vais aller augmenter le nombre de volume total. Au lieu d'être 5000 à la fin, ça va être 5400. Ou si, exemple, je décide de faire 5 séries de 10 répétitions à 105 ou à 110 livres, bien, c'est une autre façon de réussir à progresser et à améliorer le mouvement. Fait que c'est bien important de comprendre que ça, le volume, c'est un des premiers paramètres qu'on peut aller modifier en salle d'entraînement. Et le but, c'est que, exemple, lorsque vous commencez votre séance d'entraînement et que c'est la première fois que vous mettez les pieds dans un gym, vous n'avez aucune expérience et que vous êtes capable de faire 5 séries de 10 répétitions à 100 livres sur le squat, bien, votre but dans 5 ans va être d'être capable de faire 5 séries de 10 répétitions à 400 livres sur le squat, 300 ou 200. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que le muscle va avoir eu à s'adapter au fur et à mesure des années pour devenir de plus en plus fort. Et cette adaptation musculaire-là, l'hypertrophie musculaire, comme tu as parlé tantôt, il va avoir créé de la synthèse des protéines et tu vas avoir développé de la masse musculaire. Fait que ça, en entraînement, c'est très important.
Le terme, juste pour te dire, là, ben, tu sais sûrement, mais je pense que tu ne l'as pas dit, on appelle ça le progressive overload. C'est le fait d'à chaque training, peu importe quoi, tu montes quelque chose.
Absolument.
Puis tu sais que ça peut être, moi, comment je le dis tout le temps, ça peut être une rep ou 2 reps, comme ça peut être
une livre
ou souvent 5-10 livres, comme ça peut être moins de temps de repos. Comme ça peut être…
Une série de plus,
effectivement. Puis je vais en dire un cinquième, j'allais dire le temps sous tension.
Ouais.
Donc, au lieu de descendre en 3-4 secondes, 12 secondes, tu peux descendre en 4-5 secondes. Ouais. Fait qu'il y a plein de façons, mais oui, c'est
il y a plein de façons pour augmenter tout le temps la difficulté de vos trainings et de faire en sorte de vous surpasser et de devenir, on va dire, une personne plus forte, une personne plus endurante, une personne avec autant psychologiquement que physiquement. Le corps va s'adapter à être capable d'en prendre tout le temps plus. Et c'est ça, l'objectif. Le deuxième point à prendre en compte, la deuxième donnée, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'entraînement. La fréquence, c'est le nombre de séances exécutées ou le nombre de fois que vous allez travailler le même muscle. Ça, c'est bien important parce que, tu sais, une personne, exemple, qui commence à s'entraîner, bien, les études ont montré que plus il va y avoir de fréquence au niveau de l'entraînement, plus on va avoir des développements musculaires chez les débutants. Une personne, exemple, fait le lundi, jambes et abdos. Le mardi, haut du corps et abdos. Le mercredi, repos. Le jeudi, jambes et abdos. Vendredi, samedi et dimanche, repos, par exemple. Fait que là, qu'est-ce qui va s'être passé? C'est que cette personne-là, 3 fois dans sa semaine, va avoir travaillé ses abdos. La synthèse des protéines va être active plus souvent, la récupération et tout. Et elle va avoir travaillé 2 fois ses jambes. Le haut du corps, qui a travaillé 1 fois, il y a eu moins de fréquence à l'intérieur. Donc, il y a moins de potentiel de développement que les 2 jambes ou les 3 abdos. Fait que c'était pour expliquer en tant que tel la fréquence. Ça, c'est des choses qu'on peut modifier. Il y a du monde qui vont s'entraîner 3 fois les pectoraux pour essayer d'aller rattraper un retard. Comme d'autres personnes, exemple, dans un sport comme le CrossFit, ils vont souvent travailler, si tu t'entraînes 5 fois au CrossFit par semaine, plusieurs fois le même muscle, tu vas travailler des mouvements différents, mais qui vont travailler les mêmes groupes musculaires. Fait que ça fait en sorte que la fréquence d'entraînement de ton groupe musculaire est fréquemment là. Fait que ça, c'est une autre chose bien importante à aller prendre en compte.
Ouais, puis je vais ajouter sur ça parce que, tu sais, moi, là, je pense que la fréquence est vraiment plus importante que le volume. OK? Puis je vais donner l'exemple le plus simple. Si, exemple, mettons dans ta semaine, on parle de jambes, par exemple, tu fais 20 séries de jambes, peu importe c'est quoi. On prend juste théoriquement, tu as 20 séries de jambes, puis tu le fais dans une journée, exemple, tu fais un leg day le lundi, puis tu reviens tout le temps à ton leg day à chaque lundi, tu as fait 20 séries dans ta semaine de jambes. Versus, tu vas te faire, exemple, 10 séries de jambes le lundi, puis tu refais tes jambes le jeudi, par exemple, mais un autre 10 séries. Les deux, ça fait 20 séries dans ta semaine. Moi, comment je l'explique, c'est que à ta 17e, 18e, 19e et 20e série, par exemple, de ton jour 1, tu vas commencer à avoir les jambes molles. Tu vas trouver ça raide. Fait que tu vas pousser bien moins qu'à ta 8, 7, 8, 9, 10 de ton deuxième training parce que tu vas être beaucoup plus frais. Fait qu'au bout de la ligne, les deux, tu as fait 20 séries de volume, mais la fréquence est différente. Tu as deux fréquences. Donc, même volume, plus de fréquence, selon moi, meilleur résultat parce que tu peux te pousser plus.
Puis littéralement, ce que tu dis s'en va sur mon troisième point, l'intensité, la troisième donnée.
Ça rentre là-dedans.
Fait que littéralement, si tu fais 10 séries puis que tu as te concentré à 10 séries versus 20 séries, lequel tu risques d'avoir le plus d'intensité tout au long du programme? C'est sûr, ça va être 10 séries. Fait que l'intensité, c'est le troisième aspect qu'on veut être capable de mettre en application dans un entraînement d'hypertrophie. Et c'est bien important. La plupart du temps, c'est là que les personnes vont avoir des lacunes. Parce qu'il y a du monde qui sont capables d'aller passer 1h30, 2h au gym. Il y a du monde qui vont se faire faire un programme d'entraînement avec des tonnes de répétitions et de séries. Ils vont sortir de là, ils vont être brûlés bien raides, ils vont avoir brûlé plein de calories. Mais au final, l'intensité, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne par un système très populaire dans le monde du powerlifting et on va dire même dans le bodybuilding. Un peu moins, mais il l'est quand même. C'est le principe du RPE. Le RPE, c'est une méthodologie pour être capable de calculer les répétitions potentielles estimées restantes. J'explique un peu ici. Le principe du RPE en tant que tel, ça va de 1 à 10. 1 étant très léger et 10 étant avec extrêmement de difficulté. Genre extrême, là. À 10, t'es pas capable de le faire tout seul. Il faut un spotter. RPE 6 à 7, c'est en général ce qu'on va considérer comme un effort modéré, voire semi-intense. Il reste encore 3 à 4 répétitions avant d'atteindre l'échec. Fait que moi, exemple, qui peut bencher jusqu'à, exemple, un 2 plate. Fait que 225 livres. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon RPE 6 à 7, ce serait peut-être aux alentours d'un 1 plate 30. Comme ça, j'aurais peut-être un 15 livres de chaque barre en banque que je serais capable d'aller mettre avant d'arriver vraiment à mon maximum de charge. Fait que ça, c'est RPE 6 à 7. Il me reste encore des répétitions en tank.
Mais là, le RPE n'est pas basé sur nécessairement un nombre de répétitions. Il est basé sur l'effort.
La difficulté.
Dans le sens que, juste pour préciser, parce que c'est important, c'est que, mettons, tu peux te faire 50 reps sur le bench. Mettons, tu ferais, exemple, qu'on regarde un RPE 9.
À l'échec ultime.
Ben, mettons qu'on prend juste l'exemple pour que les gens comprennent. On prend RPE 9, puis tu fais 50 reps, c'est combien de reps? Mettons, excuse, tu veux faire 50 reps, puis tu veux faire un RPE 9, c'est combien de reps?
Techniquement, c'est 49.
C'est ça, exactement, c'est 49. Fait que tu sais, ton RPE n'est pas basé sur un nombre de.
C'est
pas basé sur 10 répétitions. C'est peu importe c'est quoi ton nombre de répétitions. La différence de RPE jusqu'à 10 est le nombre de répétitions qui
fait que c'est l'intensité à l'intérieur, comme tu as spécifié.
Ouais.
C'est l'intensité à l'intérieur de ta rep, tu as raison. Fait que, tu sais, si on regarde en tant que tel RPE 8, il reste environ 2 répétitions possibles avant d'atteindre l'échec ultime. On va reparler tantôt.
Peu importe c'est quoi le nombre de répétitions.
Peu importe c'est quoi, que ce soit 2, que ce soit 6, que ce soit 10.
Voilà.
RPE 9, il reste seulement une répétition. Fait que je pense qu'on commence à comprendre la logique. Et RPE 10, c'est l'échec total. Qu'est-ce que ça veut dire, l'échec total? Tu pourras donner ta définition de l'échec total. Très peu de personnes comprennent, on va dire, l'échec ultime.
Moi, il m'a donné un exemple tantôt.
Mais il n'y a aucune répétition supplémentaire qui est possible sans assistance. C'est ça, principalement, merci, l'échec total. Fait que si, exemple, j'installe une charge, puis je viens pousser mon 8e répétition, ma 9e avec extrêmement de difficulté, le spotter en arrière de moi fait juste mettre ses mains dessus pour être bien certain que ça monte, et le 10e, j'ai peur de descendre. Je me dis, OK, Jérôme, tu donnes un dernier blitz. Je descends en bas, je commence à pousser, puis là, on commence à voir tranquillement, pas vite, tellement que c'est lourd, la forme venir à casser. Je pousse, je pousse, je pousse. Je peux même avoir une stagnation de peut-être 2-3 secondes dans le milieu, et là, j'essaye. Puis au final, rendu à 75 % du mouvement, j'échappe le mouvement. C'est ce qu'on appelle l'échec total. Ça veut dire qu'il n'y a plus de répétition possible et je ne peux pas compléter cette répétition-là sans une assistance. Tu me suis là-dessus, sur le concept?
Oui, 100%. Mais là, t'as-tu vu dans cette situation-là, ça serait un RPE 10, mais c'est pour que tu finisses.
Exactement.
Mais il faut que tu finisses.
Fait qu'il faudrait qu'on aille la charge parfaite.
Ouais, c'est ça, exact.
Fait que j'aurais eu une livre de.
T'aurais eu un RPE 10.5, mettons, ce qui n'existe pas, là, mais ça serait ça.
Genre, fait que tu sais, l'échec ultime, principalement, c'est ça qui a démontré aux alentours d'un RPE 9, un RPE 10, c'est ça qui a démontré le plus de, on va dire, micro-lésions musculaires et ce qui va activer le plus possible le développement musculaire d'hypertrophie. Fait que le but, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir se rendre dans ces styles d'entraînement-là. Mais le but, c'est d'être capable de vous entraîner autant au niveau du système nerveux psychologique qu'au niveau physique pour être capable graduellement d'apporter la machine à pouvoir vous mettre dans une situation où vous allez arriver dans un RPE 8 à 10, exemple. Fait que tu sais, dans chaque séance d'entraînement que je mets en application, je pense que ça doit pas mal être pareil. Tes séries, on va dire, du premier exercice tournent tout le temps au RPE 9 à peu près. Puis ensuite de ça, tout au long de ton entraînement, ça va plus être un « on se vide de l'énergie » puis tout, mais le gros du training a été fait dans ton premier mouvement, tu t'es poussé à ton bout. Et ensuite de ça, tu vas plus y aller avec un RPE entre 6 et 10, admettons, entre 6 et 8, dépendamment de ton feeling. En général, c'est un peu comme ça que les périodisations, ils se font.
Ben, peut-être tu changes-tu de point ou…
Non,
OK, parce que je vais revenir sur les affaires là-dessus après.
Parfait. Ben, veux-tu, vas-y.
OK, ben dans le fond, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais pas 100% dans le sens que… Puis j'avais sorti des points par rapport à ça, je ne vais pas les oublier, là. Mais dans le fond, les études en hypertrophie démontrent que les résultats sont les mêmes… Excuse-moi, démontrent les mêmes résultats, c'est ça, près de l'échec musculaire versus l'échec musculaire complet. Dans le fond, c'est que… Si tu vas à l'échec musculaire, puis ça revient un peu à ce que je te disais tantôt en termes de volume, mettons que tu vas aller, puis l'échec musculaire complet, l'exemple que j'allais donner déjà tantôt, c'est le training de squat qu'on avait fait à AMRAP 12 minutes. Mm. Ça, là, c'était un échec musculaire complet. Là. J'étais prêt à marcher pendant 2 semaines, j'étais couché pendant 10 minutes à terre.
Ouais, fait qu'il n'y
avait aucune rep qui montait de plus.
On avait de la boucane qui nous sortait du corps.
Ça, c'est un échec musculaire complet. Mais si, exemple, tu te fais un squat, qui est un des les mouvements les plus demandés, selon moi, overall, un vrai bon squat pesant, puis tu te donnes à maximum à l'échec musculaire total, tu as besoin genre de 15 minutes de repos pour repartir, tu comprends? Fait que tu es tout le temps quasiment mieux de te garder une, deux, peut-être trois reps en banque. Puis même là, tu sais, les gens, 4-3 reps en banque, arrête, je vais à l'échec musculaire. C'est quasi impossible de tout le temps aller à l'échec musculaire. Voir que, je vais dire, dans des mouvements des compound movements, des mouvements qui sont polymusculaires, genre des squats, des deadlifts, des choses comme ça, tu vas quasi jamais à l'échec musculaire versus des mouvements comme d'isolation, genre tricep extension, un leg extension.
Là, le muscle peut arrêter.
Ah, là, tu peux aller limite à… Non, là, mais RPE 10 tout le temps. Là.
Le problème avec ce qu'on appelle les compound mouvements, des mouvements pluriarticulaires comme le squat, le deadlift, le bench et tout, c'est que c'est pas le muscle qui va devenir à l'échec. C'est le cerveau, c'est la tête, c'est la boîte électrique. Parce que, tu sais, je donne souvent cet exemple-là à mes clients. Ils me disent, hey, je suis pas capable de monter ma charge, puis tout. Je fais juste y dire, écoute, c'est le système nerveux souvent. Quand on parle de force, le système nerveux n'est pas capable de s'adapter à la demande que tu lui donnes pour le muscle. Parce que si demain matin, tu es en train de jouer dehors avec ton enfant, puis là, tout ce que tu vois, c'est une gigantesque branche d'un arbre d'à peu près 200 livres tombée sur ton enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas développer une force à cause de l'adrénaline phénoménale, puis dans ta tête, c'est non négociable. Il faut que tu déplaces cette branche-là. Fait que peut-être que sur le deadlift, tu es pas capable de deadlifter plus que 200 livres, mais si la branche pèse 250 livres, puis que tu es en état critique de stress et que tu vas avoir toute ton adrénaline sécrétée, c'est inévitable que tu vas aller sauver la vie de ta fille, puis que tu vas lever la branche. Fait que le muscle a une capacité phénoménale, puis nous, l'être humain, on n'a pas cette capacité-là de pouvoir aller utiliser ça, sauf si on est sur l'adrénaline. Il y a du monde qui utilise de l'ammoniaque, puis il y a du monde qui vont vraiment aller, on va dire, activer le système nerveux avec des techniques puis de l'équipe, puis à force de s'entraîner à la Larry Wills, tu sais, les hommes les plus forts du monde, c'est des personnes qui ont un système nerveux incroyable, peuvent demander à leur boîte électrique comme jamais là, à leur cerveau. Fait que c'est souvent ça. L'échec nerveux arrive avant l'échec musculaire, on va dire.
Dans cette situation-là, ce qui se passe, c'est que si tu te rends à l'échec nerveux, à tous les trainings, ce qui est quasi impossible, tu ne seras jamais capable de t'entraîner avec autant, pas de volume, mais de fréquence. Oui. Parce que si tu détruis les jambes, genre ce qu'on a fait, t'es raqué pendant 2 semaines, c'est quand tu vas refaire des jambes? 2 semaines après. Fait que ta fréquence, ça va être pourri au bout de la ligne.
Un matin, on avait fait, je me souviens, on était supposé de faire 2 fois nos jambes dans notre semaine, puis on avait commencé tout de suite avec un hack squat. Puis je me souviens, c'était incroyable.
Ouais.
Écoute, on commence le hack squat, on met 4 plaques de chaque bord, on s'installe pour 10 répétitions, les fesses à terre, on monte ça. Déjà là, il était pesant, il était très méchant. Après ça, on enlève une plaie de chaque bord, on fait 20 répétitions, on enlève une plaie de chaque bord, on fait 30 répétitions. 4e série, on enlève une plaie de chaque bord, on fait 40 répétitions. Puis quand on est arrivé à 50 reps, on avait juste la machine, nos jambes étaient tellement en douleur qu'on rampait à terre, puis on n'a même pas réussi à faire le reste de notre training. Puis ça... Ça nous avait tellement poussé à l'échec parce qu'on était tellement déconditionnés de faire de la grosse force avec de la grosse endurance sale.
On n'a pas fini le training.
On n'a même rien fait. On n'a rien que fait ça. Mais on est arrivé à l'échec, on va dire, psychologique, musculaire à ce moment-là. Puis je me souviens, j'ai été raqué pendant quasiment 2 semaines. J'ai même pas réussi à faire tous mes trainings de la semaine à cause de ça.
C'est là que le point, c'est que tu veux avoir le plus de stimulus possible sur tes muscles.
Ouais.
Avec le moins de fatigue possible. Fait que tu veux trouver l'espèce d'entre-deux parfait entre tu vas quasi à l'échec musculaire, mais tu te gardes toujours une ou deux, peut-être 3 répétitions en banque, dépendamment c'est quoi ton training, pour pouvoir le faire plus longtemps et plus souvent.
C'est un excellent point que tu viens de citer parce que ce serait intéressant de voir la dépense au niveau du système nerveux entre RPE 7 et les gains musculaires probables, et RPE 10 et les gains.
C'était ça, l'étude. Il faudrait que je ressorte. En fait,
ça aurait été intéressant.
Je résume juste l'espèce de titre, pas le titre, mais la conclusion. Là. Ouais. Mais il faudrait que je ressorte, c'était super intéressant.
Parce que c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. J'explique, dans le fond, pour finaliser le sujet, le principe d'une périodisation d'entraînement. Puis ça, en tant que tel, tout bon coach et entraîneur devrait toujours faire ou presque une périodisation d'entraînement.
Juste avant que tu partes là, okay, je veux dire un dernier point. Ben, c'est parce que je trouve ça super important. On parle de RPE, puis après ça, je pense à clause ça, puis tu pourras partir sur ce que tu allais dire. Ouais. Encore une fois, j'ai pas sorti l'étude, mais c'est une étude, OK? Il avait fait, dans le fond, une étude sur qu'est-ce que les débutants et intermédiaires percevaient comme effort dans un RPE. Puis là, il expliquait le concept du RPE. Puis là, il disait, OK, ben mettons, fais, on va dire, 10 répétitions de squat, puis arrête quand t'es vraiment plus capable. Puis là, mettons, la personne débutante faisait ses 10 répétitions, arrêtez, my God, je suis plus capable, RPE 10, tu sais. Puis, dans le fond, le concept, ce qu'il faisait, c'est qu'aussitôt qu'il finissait, il rembarquait tout de suite, puis let's go, une de plus, puis une de plus. Puis finalement, il réussissait toujours à en faire, en moyenne, 5 de plus. Mm. Fait que le point de l'étude, ce qui était super intéressant, c'est que les personnes débutantes, voire un peu intermédiaires, gagent vraiment mal leur RPE. Ils croient qu'ils sont à l'échec musculaire, puis ils ne sont jamais à l'échec musculaire. Fait que vu que la perception de l'effort est vraiment mal perçue, ben, ils ont des gains qui sont vraiment moins bons que s'ils étaient capables d'aller chercher un 7, 8, 9 à chaque fois, parce qu'ils ont toujours plus de répétitions en banque que réellement ce qu'ils croient.
C'est la raison du pourquoi, quand on s'entraîne, on vient à développer des skills pour être capable d'endurer plus. Tu sais, un bel exemple, je suis allé entraîner, la première fois que j'allais entraîner une de mes bonnes clientes, une cliente que, à domicile dans le temps quand on faisait ça, puis je me souviens très bien, la première séance ultime, on faisait tout le temps faire des jambes parce que c'est là que la cliente se sentait raquée puis elle trouvait qu'il y avait « wow ». Fait que,
l'effet « wow ».
J'y fais faire une chaise sur le mur. Tu sais, ça, là, c'est le meilleur indicateur pour voir si la personne a une bonne tolérance à la douleur. Parce que tu es capable de toffer. Tu sais, la madame n'était pas en surpoids du tout. Elle était à son poids santé. Elle traînait rien de surpoids. Elle s'installe sa chaise. Après 20 secondes, les deux jambes, ils plient d'un bord puis de l'autre. Elle est plus sérieuse dans son processus. Puis, tu sais, elle est comme... Elle est fofolle, là. Elle cherche vraiment... Elle cherche à essayer de sortir de cette situation-là. Fait que ça n'a même pas duré 30 secondes. J'y avais fixé une minute. 30 secondes plus tard, elle se lève, elle est plus capable. Deuxième série, j'ai dit, là, tu me fais ton 30 secondes. Let's go, t'es capable. Elle s'installe, fait juste garder son contrôle, son calme, capable de faire le 30 secondes de peine et de misère. La semaine d'après, elle a passé à travers le training, elle a été raquée comme jamais. La semaine d'après, j'y ai fait faire le même training, la même affaire, mais 45 secondes, elle a réussi à le faire. Mais dans sa tête, elle ne savait pas qu'elle était capable de faire ça. Dans sa tête, le 30 secondes, ça faisait mal. Puis elle n'est tellement pas conditionnée à sentir ce type de douleur-là que pour elle, elle n'est pas capable d'endurer ça trop longtemps. Mmh. Mais même une semaine plus tard, elle était déjà capable d'en endurer plus. Puis ce qui est intéressant, c'est que je lui ai démontré à quel point psychologiquement, elle se mettait des limitations puis qu'elle était dans l'incapacité au début, quand elle était débutante, de bien évaluer la douleur et l'intensité dans son entraînement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est rendue qu'elle squatte à peu près 25-30 livres de chaque barre. Mais ça, la douleur et l'intensité est mille fois plus grand. Mais au début, elle n'était pas capable de faire ça.
C'est pour elle qui a fait le record du monde de squat. Tu me parlais chez les femmes. De... Non.
Autre principe, le principe de périodisation d'entraînement. C'est un principe, en général, que les powerlifters, même les bodybuilders, vont utiliser. En fait, tout le monde. Une périodisation dans l'entraînement, autant dans le vélo que dans n'importe quoi. Il y a du monde qui appelle ça in-season, off-season. Il y en a d'autres, c'est vraiment des périodisations spécifiques d'entraînement. Les périodisations en tant que telles, c'est simple. C'est si tu n'as pas de plan de match bien planifié, tu t'en vas absolument nulle part. Fait qu'une périodisation, dans le fond, c'est exemple de hypertrophie musculaire ou de développement musculaire. Exemple, un 6 semaines où l'objectif, c'est de commencer à introduire une alimentation qui va nous permettre de développer de la masse musculaire, donc un léger surplus calorique. Et on va aller faire un programme d'entraînement, on va dire standard, de 8 à 12 répétitions avec des RPE 7, 8 à peu près. Fait que là, on va y aller de façon mollo, on va apprendre à maîtriser les mouvements et toutes les kits. On va faire notre bench le début du training de pec, on va faire notre squat dans le training de jambes, etc. Puis on fait ça pendant 6 semaines pour se conditionner à l'alimentation et à l'entraînement. Ensuite de ça, on reprend le même programme, mais là, on va embarquer dans du sérieux. On peut augmenter un petit peu, peut-être 100 à 200, 300, dépendamment de la personne, 100 à 300 calories l'alimentation. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le même training va passer de 6 à 10 répétitions. Fait que là, on va tomber dans du RPE 8. On va essayer toujours aller un peu plus près de l'échec. Fait que le même mouvement que tu faisais, là, on vient de rajouter de la charge et ton but, c'est d'essayer de t'apporter le plus possible près de l'échec. Et ensuite de ça, on va s'en aller vers une phase de 4 à 6 semaines où on va encore augmenter les calories et qu'on va encore augmenter l'intensité de l'entraînement pour aller vers du 4 à 8 répétitions avec un RPE 8-10 à peu près. Fait que là, dépendamment de où la personne elle est, on va essayer d'augmenter encore une fois l'intensité pour aller chercher le moins de répétitions, le plus lourd possible, puis faire en sorte que le training soit très, très, très intense. Mmh. Et ensuite de ça, on va avoir une petite phase de deload. Ça peut durer une semaine comme ça peut durer 4 semaines. Fait que là, on s'en va avec des RPE 5, 6 et on fait juste faire de l'endurance, des séries de 10, 12, 15, 20 répétitions. On fait des circuits et des choses de même avant de rembarquer dans une autre périodisation. Fait que faire des périodisations de ce genre-là, méthodique, un, ça évite les blessures. Parce que si tu commences directement à fret à faire des séries de 4 à 6 avec un RPE 9, tu as des chances de te blesser. Mais si tu commences ta séquence, tu maîtrises ton mouvement, tu maîtrises le tempo, tu maîtrises tes charges et tu comprends bien tes charges, tu as une bonne alimentation et tu es capable de bien maîtriser ça et que tu es prêt à passer à l'autre phase, bien là, tu tombes dans la périodisation numéro 2. Et c'est vraiment intéressant de faire ça. Puis je pourrais même dire la même affaire au niveau de la perte de poids. Il y a des périodisations spécifiques pour la perte de poids. C'est notre travail de faire ça pour vous, mais tout ça pour expliquer que si vous partez au gym, que vous n'avez pas de programme, que vous faites juste faire de la machine, que vous ne comptez pas vos charges, que vous n'avez pas d'objectif en tête, qu'il n'y a pas de périodisation et qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation des niveaux d'intensité ou quoi que ce soit, il se passera absolument fuck all. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. La plupart du monde qui s'en vont en gym, qui vont payer 50$ par mois, puis qui vont lâcher après 3 mois, puis qu'après ça, ben, le propriétaire du gym va se faire votre abonnement par mois pendant le reste de l'année. Le problème, c'est que vous n'avez pas de résultats. Si dès les 2-3 premiers mois que vous rentrez là-bas, vous voyez des résultats concrets, que vous venez à développer la passion, de vous développer, de voir de la progression, de voir de l'amélioration, autant dans le miroir que dans vos charges, que dans votre confiance, que dans votre capacité à être capable de faire plus, vous allez vouloir rester, puis vous allez développer ça, cette passion-là. Mais si vous n'êtes pas encadré, que vous n'avez pas de structure, puis qu'il n'y a pas de calcul autour de ça, il n'y a pas de périodisation, vous allez nulle part. Fait que ça, comme la perte de poids, si t'as pas de plan de match, si tu sais pas comment faire, tu réussiras pas à le faire. Fait que faites une périodisation. À la limite, c'est con à dire, mais il y a plein de coachs. La plupart des coachs en font pas. Ils vont faire un programme, tu pars avec ça et voilà, c'est fait. Mais sinon, demandez à ChatGPT une périodisation pour une personne qui débute et toute l'équipe, puis je suis sûr qu'ils vont en faire une. Fait que le but, tout ça pour dire que le but au niveau de l'entraînement en hypertrophie, c'est d'améliorer jour après jour, pendant des années, le volume d'entraînement, la fréquence d'entraînement, l'intensité d'entraînement et de fonctionner avec une méthodologie dans une périodisation pour faire ça. Si vous mettez ça en application, c'est pratiquement impossible que vous n'ayez pas des résultats. Pratiquement impossible.
Tu veux principalement avoir une constance, c'est important. Combien de personnes s'arrêtent 2-3 mois, puis ils reperdent ça, puis ils arrêtent.
Mais encore là, constance. Combien de personnes t'as rencontré, Sam, depuis le début de notre carrière, puis c'est des centaines et des centaines de personnes qui s'en vont en gym, qui n'étaient pas sérieux dans leur processus, qui ne voulaient pas de programme. « Oh, je ne veux pas investir pour ça. S'il y a ça, je n'en ai pas eu un sur Internet gratuit. » Puis finalement, ils n'ont pas de résultats puis ils décrochent. Mais combien de personnes qui sont venues, qui t'ont fait confiance ou qui nous ont fait confiance, qui ont eu une périodisation, qui ont eu un plan alimentaire, qui ont vraiment eu toute la procédure de A à Z, puis qui ont développé une piqûre, puis que là, ils sont rendus super, super motivés à tout ça. Ils sont tripeux de ça. On leur a partagé la passion, en fait. C'est incroyable, mais tout part de la périodisation et de la préparation à ça. Et le dernier petit point, après ça, je te laisse passer au prochain, qui est le surplus calorique, qui va être ultra intéressant, que j'ai comme pas mal parlé tantôt. La bioimpédance, nous, on a accès à une machine ici, un scanner. De plus en plus de personnes, depuis qu'on a fait le podcast, il y a de plus en plus de personnes qui communiquent avec nous. En passant, by the way, si c'est des choses qui vous intéressent d'en savoir plus, sur notre site internet, phoenix.ca, F-E-N-X.ca, il y a toutes les informations dans la section bioimpédance, puis vous pouvez même acheter une carte de bioimpédance directement là. C'est vraiment pas dispendieux, mais ça vous permet aussi de tout savoir sur votre corps. C'est incroyable, on voit la segmentation musculaire. Mais ce qui est intéressant ici, puis le point où je veux en venir, c'est que lorsqu'une personne va perdre du poids. Sur la bioimpédance, on va voir des pertes drastiques au niveau du chiffre sur la balance. Fait que là, sur la bioimpédance, on va voir une perte de 10 livres ou de 5 livres. Mettons, on va y aller 5 livres raisonnable. Personne n'a perdu 5 livres dans son mois. Qu'est-ce qui s'est passé? 4,1 livres de gras, 0,3 points, mettons, on va dire 0,5 livres d'eau, puis 0,2 livres de masse musculaire, ce que je considère quand même un beau processus. Fait que la personne, elle voit drastiquement 5 livres de perdu, elle fait ça pendant 5 mois, 5 livres, 5 livres, 4 livres, 5 livres, 5 livres, super motivée. Là, après ça, elle tombe en phase de tonification musculaire ou d'hypertrophie musculaire. Fait que là, on augmente les calories. On va chercher un petit surplus de 100 à 200 calories. La personne est super disciplinée, elle s'entraîne et tout. Puis là, elle arrive et elle est déçue. Hein? Mon poids ne monte pas. Elle était 171,2. Puis un mois plus tard, elle est rendue 171,4. C'est plate à dire, mais la perte de poids, tu vas voir des gros changements drastiques, puis c'est très lent quand tu embarques dans le processus parce que tu te vois changer, tu te vois dans ton linge changer. L'hypertrophie, Tu le vois dans tes manches, tu le vois dans le miroir, tu le vois, ça fait une différence. Mais le gain de masse musculaire se fait d'une façon très tranquillement versus la perte de gras. Tu peux aller brûler 50 000 calories en l'espace de peut-être, on va dire, 6-8 mois. Mais d'aller, on va dire, créer des nouveaux tissus, ça va un rythme de grenouille, de tortue. Là. C'est
très
super
important
lent.
Que tu parles de ça. Moi, je le dis tout le temps en partant à mes rencontres, quand je vois des personnes qui viennent me voir pour l'hypertrophie ou la performance, je le dis tout de suite en partant, puis je le dis pas
attends
pour
toi,
te décevoir. Au contraire, on va se motiver, mais c'est normal. C'est très bon comme point.
C'est la constance qui va faire ça parce que si, honnêtement, si vous développez 2 livres de masse musculaire dans l'année de façon naturelle, c'est exceptionnel ce que vous venez de faire.
Comme avancer.
Comme
parce
avancer,
qu'un débutant qui s'est jamais entraîné qui développe 2 livres par année, c'est pas bon. Là.
Non.
C'est bon, mais
il peut faire plus.
Tu peux faire 10-15. Là, tu sais,
facile.
Moi, si j'en gagne 2 dans l'année, je suis content.
Facile. Fait que, tu sais, ouais, c'est vrai, bon point ça. Fait qu'un débutant peut gagner plus de masse musculaire comme testé au début, mais un avancé comme moi, mettons, je me bats 5 jours semaine avec une alimentation en surplus calorique, avec des protéines vraiment calculées, avec la base de suppléments et tout. Je m'entraîne à en arracher. Sérieusement, des fois, ça en fait même peur. Puis, si je développe 2 livres de masse musculaire dans l'année, c'est déjà bon. Fait que, tu sais, 2 livres versus si je veux perdre 20 livres, je suis capable de faire ça en 3 mois, 5 mois.
Mm.
C'est sûr, c'est pas pareil, là.
Tu sais, juste te dire, là, mettons, moi, de 19 ans, je fais un chiffre rond, là, à 20 ans, j'ai pris 15 livres de muscle. De 20 ans à 29, je n'ai repris 15. c'est fou, là. Ouais, c'est je pesais peut-être 145, puis là, on va dire que je suis 175. J'ai pris 30 livres, on va dire, de masse musculaire depuis les 10 dernières années. Mais j'ai pris les 15 premières en 1 an ou 2 maximum, puis les 8 autres années, j'ai pris les autres 15.
Fait qu'apprenez à gérer vos attentes. C'est vraiment important, mais c'est une job de constance. Puis les personnes qui vont avoir un beau physique, honnêtement, c'est du mérite, c'est du travail, c'est ça qu'on appelle du développement personnel. Tu sais, du développement personnel, souvent, on l'attrait au niveau psychologique, mais le vrai développement personnel dans le domaine, l'entraînement, en fait, c'est du développement personnel. C'est toujours devenir meilleur, plus rapide, plus endurant, plus étiré, plus tout, littéralement. Mm. Fait que c'est ce qui conclut mon point. Fait que les styles d'entraînement, principalement, juste faire un résumé, le volume, la fréquence et l'intensité, c'est les 3 choses que je vous invite à aller lire, vous intéresser et à regarder dans votre entraînement. C'est là que vous devez progresser. Si tu ne vois pas de progression dans ton entraînement, il n'y a pas de progression musculaire en général.
J'aurais tendance à dire que c'est 3 points, le plus important, c'est l'intensité.
Absolument.
C'est beau t'entraîner 18 fois par semaine puis mettre un volume. Si tu ne te donnes pas au maximum, tu n'as pas d'RPE 7, 8, 9 comme on disait, ça donne rien.
Ben. Après ça, on va passer à l'autre point pour de vrai, là, mais, mais un de mes clients, un moment donné, hey, bel exemple, carrément bel exemple. J'ai un de mes clients qui vient me voir, puis une pièce d'homme, 6 pieds 4, c'est un Adonis, littéralement, 6 pieds 4, 235, 240 livres. Le gars, il a ses abdos. Puis là, il me dit, j'aimerais ça prendre la masse musculaire, je suis incapable de prendre la masse musculaire. OK. Je regarde ses périodisations, je regarde comment il a planifié ça. De un, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de plan de match. Il fait ce qu'il a envie. Là, je dis, combien de fois tu t'entraînes par semaine? Je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, j'ai de la misère à pas y aller. OK. Tu t'entraînes combien de temps? 2 heures à 2 heures et demie. Simple. OK. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille tous les groupes musculaires. Fait que lui, il fait du full body à chaque jour, tout le temps. Puis il s'amuse. Il fait du tricep, là. Il fait des jambes, là. Il fait ça, là. Puis le gars, il t'a toute qu'une génétique. Je regarde son alimentation. Il mange à peu près 3000 calories. Il devrait manger pour prendre la masse musculaire avec sa génétique 3600 à 4000 avec son activité physique et tout. Là, j'ai dit, OK, on va prendre la masse musculaire. On va faire de quoi? Je vais te faire un training de malade mental. Là. Un training de malade mental. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'entraîner 4 fois par semaine. Ton training va durer 1 heure. Il me regarde, puis il ne me croyait pas, puis il était comme, c'est sûr, tu me niaises. Non, impossible. Je ne prendrai pas de masse, voyons. Il faut que je m'entraîne plus, il faut que je m'entraîne plus fort. Puis... Mais lui, dans sa tête, s'entraîner plus fort, c'était de s'entraîner plus longtemps. J'y ai fait un training avec les 4 grands compounds. Deadlift, squat, bench, push press. À peu près 30 minutes sur 1 heure, il passait sur le gros compound, puis tout ce qu'il avait à faire, c'était d'augmenter sa charge, d'aller chercher des grosses répétitions payantes, puis de tout le temps s'approcher du RPE9, puis j'y ai fait une séance en privé pour spécifiquement lui montrer c'est quoi l'atteinte de l'échec. Ce gars-là, après ça, il a commencé à prendre de la masse musculaire, puis il a tellement une génétique de fou, j'étais allé adapter son alimentation, puis by the way, il avait besoin de moins manger parce qu'il dépensait moins d'énergie. Parce qu'au gym, il passait son temps à aller brûler du 600, du 800 calories, moi, mes trainings, il brûlait 300. Fait que là, il y a 300 calories de moins à manger avant de commencer à développer de la masse musculaire. Ça paraît pas, mais dans le portefeuille, ça paraît. Puis aussi, dans la digestion, ça paraît. Puis dans plein d'autres choses. Fait que, il a commencé à prendre de la masse musculaire. Puis en l'espace d'1 an, il a développé pas loin de 10 livres de masse musculaire. Ce qui est extraordinairement impressionnant à quel point ce gars-là avait une génétique de fou. Incroyable.
C'était-tu ton exemple de la fin, ça?
Non.
OK, parce que moi, mon exemple dans la fin, on va donner des exemples clients sans massant à côté. Là. Je vais le donner tantôt.
Va avec,
surplus calorique. Ouais. On l'a dit, mais dans le fond, t'as comme pas le choix vraiment d'être en surplus calorique. Puis le point, c'est que tu. Je vais mettre deux affaires différentes. La prise de masse musculaire, la prise de force. C'est pas pareil. La prise de force, tu peux développer de la force sans être en surplus calorique. La prise de masse musculaire, à moins que tu sois vraiment débutant, comme on n'arrête pas de dire, il faut que tu sois en surplus calorique.
Pas le choix.
C'est comme pratiquement nécessaire. C'est un must. OK? Beaucoup de gens qui veulent développer de la masse musculaire, ben je vais donner ton exemple avec ton client, dans le fond, tant qu'à le reprendre, ils croyaient qu'ils étaient en surplus calorique. Hey, pourtant, je mange 3000 calories.
Je mange en fou.
Mais l'affaire, c'est que s'il en dépense 3500, il est quand même en déficit calorique. Fait que plusieurs personnes croient qu'ils mangent assez de calories, mais ils n'en mangent pas assez. Puis c'est drôle parce que d'un autre côté, quand on parle de perte de poids, c'est la même affaire. Plusieurs personnes croient qu'ils sont en déficit calorique, puis au bout de la ligne, ils ne le sont pas. Fait que les gens ont vraiment de la difficulté à évaluer réellement quel est, pas nécessairement qu'est-ce qu'ils mangent. Tout le monde, c'est facile de savoir qu'est-ce que tu manges. Tu checks la valeur nutritive, tu le calcules d'une balance, tu le manges. Tu as pas mal mangé ce qui est là ou du moins pas loin. Mais qu'est-ce qui sort? Ouf, c'est dur à calculer. Mm-hmm. Et c'est là que les gens ont de la misère à calculer quelle est leur dépense énergétique. Et quand on parle de prise et de perte de poids ou de prise de masse musculaire, perte de gras, ben là, c'est là que ça fucked up un petit peu. Parce que les gens croient qu'ils mangent assez, mais rarement c'est le cas. Vas-y.
Je vais tout le temps avec un principe, moi, pour mes clients, d'ascendance métabolique. Puis c'est ce que je conseille pour tous les hommes et les femmes. Dans le fond, tu sais, exemple, si moi et Sam, on a déjà structuré une structure alimentaire pour vous, puis que cette structure alimentaire-là, pour le déficit calorique, la perte de poids était de 1800. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout simplement? C'est de regarder, admettons, les valeurs nutritives, d'augmenter un 200 calories en partant. Fait que là, tu augmentes de 200, tu checkes pendant un mois, tu viens faire ta bioimpédance ou tu checkes sur la balance, peu importe quoi. Est-ce que tu vois ton poids continuer de descendre? Ah oui, avant, je descendais avec ça, un exemple, dans sa structure à 1008. Je descendais, admettons, de 2 livres par mois. OK. Là, qu'est-ce qui s'est passé après un mois? J'ai descendu de 0,6 livres. OK. Augmente encore d'un 200. Là, tu vois ton poids augmenter l'autre mois d'après de 0,5 livres. Intéressant. La moyenne constante. Là, je fais souvent une moyenne de chaque jour. Ah, oh, intéressant. Je suis en surplus calorique, je suis en gain de poids. Fait que déjà là, tu peux rester là. Souvent, je fais même le test, une autre ascendance métabolique. Tu t'en vas tester un autre 150 à 200 calories. Oh, j'ai pris 2 points. Tu sais, mettons 1,8 livres de ce mois-ci. Puis c'est là que c'est intéressant avec la bioimpédance. T'as-tu pris du gras, du muscle ou de l'eau? Mais souvent, quand tu vois un gain, c'est que tu commences à tomber en surplus calorique.
Quand tu as un gain de poids, tu es en surplus calorique. Puis c'est justement mon prochain point, c'est-à-dire que idéalement, tu veux viser environ 5-10% de surplus. Mm. Fait que si, je fais des chiffres ronds parce que ça va être plus facile pour mes calculs mentaux. Si tu as un métabolisme, puis c'est toujours basé sur le métabolisme total et non le basal. Si tu as un total de 2000 calories, on va dire 10%, c'est environ 200 calories. Fait que réellement, si la personne dépense 2000 calories approximativement, ben tu peux commencer avec un 2150 à 2200. Mm. Et là, selon comment la personne va réagir, c'est justement ça, c'est que tu montes graduellement ton apport calorique. Puis moi, ben des fois, ce que je faisais avec des clients, c'est que je montais justement, moi, je vais tout le temps à coup de 200 quand on parle de prise de masse, mettons 2002, 2004, 2006, à tous les mois, mettons. Là. Puis à un moment donné, tu arrives, exemple, à 2008, puis là, la personne, à la place de prendre 1,5 livre dans le mois, elle en a pris 4, dont 3,5, c'est du gras. OK, là, on était vraiment en énorme, trop surplus calorique.
Exact.
Donc, soit qu'on reste là, mais tu bouges un petit peu plus, ou on redroppe à 2007, 2006, puis on. À un moment donné, c'est que tu vois qu'est-ce qui se passe grâce à la balance, principalement la bioimpédance, qui te permet de voir si tu as bâti de la masse maigre ou du gras. Okay? Ouais. Maintenant, dernier point face à ça. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle d'ascendance métabolique, de monter les calories. Avec le temps, le surplus calorique ne le sera plus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, comme la perte de gras, on atteint un plateau, c'est le même concept. Et plus qu'on augmente la dépense, plus qu'on augmente l'apport calorique, donc exemple 2002, 2004, 2006, ben j'en avais parlé un petit peu dans le concept de la perte de gras, ben le métabolisme fait le contraire. Mm-hmm. Donc si tu manges 2008 à la place de 2000 que tu faisais habituellement, ben le métabolisme accélère pour pallier le 2008 pour pas que tu deviennes obèse dans l'année qui suit, tu comprends? Fait que oui, tu vas avoir un gain de masse musculaire, mais tu veux toujours jouer sur. C'est comme si tu veux être plus rapide que ton métabolisme avant que lui s'adapte à ce que tu lui donnes. Mm-hmm. Donc, éventuellement, même si tu en manges 2008 et que ton métabolisme accélère, tu brûles plus d'énergie, éventuellement, ça se peut qu'il va falloir que tu en manges 3000, puis en manger 3002, puis en manger. Il y a des limites là, de ce que le corps peut prendre, évidemment. Il y a toujours des limites génétiques, mais tu veux toujours jouer là-dessus parce que si tu te dis, OK, ben gars, moi, ma prise de masse, c'est 2500, j'en brûle 2000, puis je mange 2500, je suis toujours en prise de masse, tu ne le seras plus à un moment donné.
Puis, by the way, gang, aussi, juste pour rajouter un point à Sam, à chaque fois que toutes les personnes qui écoutent le podcast nous entendent parler de calories, moi et Sam, on ne parle jamais de calories vides. On parle toujours à 100% du temps de calories provenant de la nature, très vitales, des protéines de bonne qualité, des glucides de bonne qualité, des lipides de bonne qualité. Fait que, tu sais, c'est bien important de bien interpréter c'est quoi pour nous autres quand on parle de 2000 calories, de 2500, de 2800. Mm. Quand Sam, il dit on augmente de 200 calories, c'est pas OK, je peux me permettre de manger des frites. Ouais. Là. C'est OK, je vais augmenter peut-être de 25 grammes de poisson ou de poulet, admettons, dans mon dîner et mon souper. Je vais me rajouter un œuf supplémentaire. Fait que là, ça me fait 120 calories, puis je vais me rajouter une petite tranche de pain le matin. Fait que là, ça me fait 200 calories. Fait que là, on vient d'augmenter le besoin métabolique du corps, le nombre de calories au niveau du corps. Fait que c'est bien important de le comprendre, ça. Je voulais juste faire un petit point là-dessus.
Moi, personnellement, quand on est en prise de masse ou en performance, j'ai genre eu un abus de personnes qui est venu me voir pour des marathons et des demi-marathons cet été. Genre, tant mieux, je trouve ça nice à faire. Mais j'augmente jamais les protéines, pratiquement jamais, parce que je pars avec un apport en protéines qui en ont en masse. Là. Fait que la seule chose que je vais monter, quand on parle de performance, c'est les glucides. Ouais. Je touche quasi... Ben, je vais monter des fois les lipides, ça me dit, moi, je suis plus capable de manger du riz.
Dépendamment
du
neurotype de
même,
la personne, moi. Tout le
ben,
temps.
Moi, c'est juste qu'est-ce qu'elle a le goût de prendre, qu'est-ce qu'elle a le goût de manger. Ouais. Et principalement, quand on parle de course ou de performance, c'est que les glucides, tu peux l'utiliser comme énergie directe. Tu peux fouler tes réserves de glycogène. Fait que c'est souvent le macronutriment que je vais jouer avec pour monter graduellement. Puis pour revenir à ce que tu as dit, je suis d'accord. C'est clairement, tu sais, je veux dire, quand on parle de 3000 calories, c'est pas 3000 calories de crème glacée au chocolat. Sauf que j'avais entendu ça à un moment donné, puis je trouvais ça super intéressant. C'est une personne disait, tu sais, mettons, moi, je me considère plus comme un hard gainer. Tu sais, c'est dur pour moi de prendre de la masse musculaire. Il faut que je mange à côté, puis mon système digestif, à un moment donné, a des limites de ce que je peux manger. Fait que des fois, pour des personnes qui ont de la misère à prendre de la masse musculaire, c'est pas une mauvaise idée nécessairement d'aller chercher du fast-food. Puis je te parle pas d'y aller 6 fois par semaine. Je te parle à la place de faire une fois par 3 mois, tu peux y aller une fois par semaine. Moi, j'ai toujours été, quand j'étais en prise de masse plus intense, le petit bout, c'est à chaque samedi, j'avais toujours mon repas récompense. Puis quand je dis repas récompense, c'était pas 8 pizzas de Big Mac, mais je prenais un resto qui me permet d'aller chercher un apport calorique plus gros pour m'aider à aller créer un surplus calorique pour activer la synthèse des protéines puis accélérer ma prise de masse musculaire. Fait que c'était intéressant.
Moi, dans mon optique, ce serait pas de la restauration bourrée de produits chimiques, ce serait juste des aliments sains. Mais,
ouais, mais c'est parce que, check bon, je vais donner le meilleur exemple là-dessus. Si tu disais à quelqu'un « mange juste des aliments sains », puis tu parles juste de poulet brocoli, mettons.
Non,
là.
C'est dégueulasse, c'est... ça.
Ben, n'importe quelle viande avec des légumes. Non, mais le point, c'est que si tu manges des protéines en excès, genre beaucoup de protéines, tu dis augmente ton apport en protéines, c'est très rassasiant. Mm-hmm. Fait que si j'augmente, mettons, de 200 calories des protéines versus, mettons, du riz, pour moi, c'est bien plus facile de manger du riz que de manger du poulet parce que c'est bien moins rassasiant. Mm-hmm. Fait que quand on parle de prise de masse musculaire, des fois, c'est intéressant d'augmenter aussi, comme je te disais, les glucides principalement et non les protéines pour pas que tu aies tout le temps pas faim puis que tu puisses manger plus de calories en prenant en considération que ton apport en protéines est déjà assez élevé. S'il l'est pas, il faut que tu le montes, mais habituellement, en partant, il devrait déjà être élevé.
Déjà ça. Ouais. Je m'en vais dans le sujet des protéines, là, littéralement. Go, fait que, tu sais, dans le fond, d'expliquer tantôt, te parler un peu de la synthèse des protéines au début. Fait que la création d'un nouveau tissu. Fait que, dans le fond, l'expression des protéines que tu consommes vont aller réparer les dommages causés par ton entraînement et tu vas créer des nouveaux tissus. Souvent, j'explique un peu le développement musculaire comme t'as un mur, puis ton mur, hop, il y a eu un tremblement de terre, puis là, il y a eu une craque dedans. Fait que ton mur, en tant que tel, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas prendre une petite potée, tu vas prendre un petit peu de plâtre, puis tu vas venir mettre ça par-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mur a peut-être gagné 300 grammes. Fait qu'il va être un petit peu plus lourd, puis tu vas avoir patché ça. Puis là, un moment donné, il y a un autre tremblement de terre, il y a deux craques qui apparaissent parce que là, tu viens de te faire une grosse séance d'entraînement. Tu reprends encore la même affaire, tu remplis les deux trous avec un petit peu de plâtre. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des micro-lésions dans ton mur, tu vas tout le temps rajouter un petit 10 grammes, un petit 25 grammes de plâtre. Ton muscle, c'est absolument la même affaire. Au fur et à mesure que tu crées des micro-lésions avec ton bench press, ton squat, tes gros mouvements, et à force de t'entraîner, tu viens à déchirer ton muscle à l'entraînement. Et là, tu vas te retrouver dans une situation où le matériel qui est le plâtre, comme je parlais tantôt, c'est les protéines et les acides aminés. Fait que, comme tantôt tu avais parlé, c'était la leucine. Fait que c'est les acides aminés qui vont permettre d'aller justement patcher, on va dire avec du plâtre, les lésions musculaires qui ont été créées à cause du dommage de l'entraînement. Fait que l'apport en protéines, c'est bien important de comprendre que tout au long de la journée, il y a dans le fond deux, on va dire, c'est chat et chien qui combattent tout le temps dans votre corps, qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme et le catabolisme en tant que tel, anabolisme, ça veut dire on crée des nouveaux tissus, c'est le développement de... Dans le fond, je pense que tu l'expliques mieux que moi, l'anabolisme.
Tu l'as dit, l'anabolisme, c'est la création de tissus. Catabolisme, c'est le fait que tu détruis des tissus.
Tu avais déjà utilisé une définition, puis j'avais trouvé que c'était un coup de circuit, ça, mais correct.
Ah, je sais plus ce que
tu je me souviens. Mais l'anabolisme musculaire, c'est lorsque tu crées des nouveaux tissus, fait que par la synthèse des protéines et tout. Et le catabolisme, c'est lorsque tu détruis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude ici qui a démontré, c'est l'étude qui a été publiée dans le Journal of Nutrition en 2013, qui a comparé trois groupes de participants qui consommaient absolument la même quantité de protéines dans une journée, 80 grammes de protéines, mais répartis sur différents moments dans la journée. Un groupe consommait les protéines en 2 grandes doses, un autre en 4 petites doses et un autre en 8 plus petites doses. Et l'étude a démontré que la consommation, plus dans le fond tu avais de fréquence de consommation de protéines tout au long de ta journée, et aux 3 heures, 2 heures, et etc. Et plus la synthèse des protéines était activée, était efficace et était consommée en grande quantité pour aller réparer tes muscles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui consommait, puis j'ai un tableau juste ici que je trouvais super intéressant, c'est le tableau de l'étude en tant que tel, mais une personne, exemple, qui mange 5 grammes de protéines pour le déjeuner, elle va avoir une très légère, pas assez pour venir activer la synthèse des protéines maximales. Ensuite, au dîner, elle va aller manger 15 grammes de protéines. Elle va essayer d'aller vers la ligne, mais elle n'est pas capable d'aller atteindre la ligne pour l'activation de la synthèse des protéines maximales. Et ensuite, au souper, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va aller manger le reste des protéines pour son 80 grammes, donc un 60 grammes aux alentours. Et cette personne-là va suralimenter. Il n'y aura pas plus de résultats parce que la synthèse des protéines, la réparation musculaire et justement le développement musculaire ne va pas se faire plus que si une personne va consommer à plusieurs reprises 25 à 30 grammes de protéines à 5-6 reprises. Plus tu segmentes la consommation de protéines tout au long de ta journée en petits repas, et plus tu vas tout le temps aller hit la synthèse des protéines. Et ce qui est intéressant, c'est chez un homme moyen qui veut développer de la masse musculaire, la synthèse de protéines, ils ont perçu, on va dire, l'optimal entre 20 et 40 grammes, entre 20 et 35-40 grammes. Ce qui veut dire que toi, si tu consommes un repas contenant 48 grammes de protéines, il y a de fortes chances que ça n'ait pas d'activation supplémentaire de la synthèse des protéines. Tu as déjà maximisé le processus. Donc, le but, lorsque tu vas faire un processus de prise de masse musculaire, la chose la plus importante, et je dirais même plus important encore que le surplus calorique, oui, il faut que tu aies plus de matériel pour créer du nouveau tissu. Mais le fait d'aller activer principalement des protéines à chaque 3 heures, aux alentours d'un 20 à, on va dire, 35-40 grammes, c'est ça qui va faire la grosse différence parce que le muscle va toujours, toujours avoir des pulsations au niveau de la synthèse des protéines et va toujours être en constante réparation, création et synthétisation. Et ça, c'est vraiment important parce que l'étude qu'elle a démontré, c'est qu'une personne qui consomme 6 repas de 25 grammes de protéines a clairement des effets bénéfiques beaucoup plus grands qu'une personne qui va consommer un seul grand repas de protéines. Puis cette étude-là avait été faite aussi avec des personnes qui faisaient des jeûnes. Et les personnes qui font des jeûnes ont tendance à perdre la masse musculaire plus grande, mais dès l'instant où ils reviennent avec une synthèse des protéines plus régulière, qui reviennent avec une alimentation à 6 repas, ces personnes-là vont récupérer la masse musculaire avec une façon quand même assez impressionnante. Fait que c'est super intéressant, mais principalement, il faut consommer des protéines à plusieurs moments dans la journée. C'est ce qui va faire en sorte que ça va stimuler la synthèse des protéines. Et en même temps, ça va éviter le catabolisme parce qu'après 3 heures, il y a eu des études qui se sont rendues compte que le catabolisme musculaire et la dégradation des tissus, on parle de tous les tissus musculaires, osseux, tendineux et tout, ont tendance à se faire à partir de justement 3h30, 4h après ne pas avoir consommé de protéines. Lorsque justement la stimulation de la synthèse des protéines n'est plus faite.
Fait que, mais là, tu n'auras pas de perte musculaire, même si tu ne manges pas de protéines après 3 heures, si tu es en surplus calorique.
Mais tu es plus propice à. Tu comprends? Ouais. Fait que si toi, mettons, dans une journée, heures. Mettons, je te donne un environnement parfait pour aller perdre la masse musculaire. Tu as mal dormi, tu as dormi 4 heures cette nuit. Tu as mangé dans ta journée quand tes besoins minimum pour réussir à au minimum combler tes besoins en protéines, c'est 100 grammes. Tu as mangé 50 grammes. Tu as vécu du stress en fou, puis en plus de ça, tu viens de te faire une grosse séance d'entraînement, puis tu as décidé de manger tes protéines en un seul repas, le reste, tu as fait des jeûnes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu vas avoir eu un pic de synthèse des protéines, mais en ce moment, dans ton corps, le cortisol est tellement suractivé à cause de plein de facteurs, sommeil, entraînement, stress, etc., que tu vas être beaucoup plus propice à aller faire du catabolisme musculaire. Mais si tu reprends la même personne, je te reprends toi, dans la même situation, mais tu as bien dormi, tu vas littéralement te faire une bonne séance d'entraînement, tu as de l'énergie et tout le kit, et principalement, oh, non, attends, en fait, je recommence l'exemple. Tu as mal dormi, tout va vraiment mal, ta journée, elle part vraiment pas bien, tu as 4 heures de sommeil, tu viens de te faire un gros training, tu es ultra stressé, puis tu le quittes, puis tu vas aller manger à 5 repas dans ta journée des petits dosages de protéines qui vont tout le temps atteindre ton 20 grammes de protéines pour aller activer la synthèse, tu vas moins perdre de masse musculaire.
Ouais. Mais dans cette situation-là, peut-être. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, quelqu'un, exemple, je mange 3000 calories, je t'en surplus calories que je m'entraîne.
Tu manges aux 4 heures au lieu de 3
heures. Exactement, c'est ça. Parce que je te dis ça, parce que moi, mettons, mon plus gros mistake de vie, là, c'était ça. Là. Je virais fou avant. Là. Tu sais, je t'avais déjà raconté. Il fallait que je mange aux 3 heures, puis si c'était 3h02, je paniquais. Ouais. Mais c'est pas vrai, là, c'est un gros mythe. Ouais.
Ben, de ce que moi, j'ai pu voir par rapport à cette étude-là, qui est super intéressante, à partir de 6 repas par jour, il n'y a pas plus de bienfaits. Ça veut dire que 7, 8, 9, 10 repas, il n'y a pas plus de bienfaits.
Fait que Rich Piana qui mangeait 12 fois des chicken breasts par jour, ça
marche. Écoute, c'était la plus grande bro science existante dans ce monde. Parce que le gars, je vous explique un peu qui était Rich Piana, c'était un freak. Mais le gars, il pesait peut-être 280 livres, puis tu sais, stéroïdes à fond, puis l'équipe, mentalité en fond. Mais Rich Piana, il avait une mentalité, c'était qu'il fallait absolument aller activer la synthèse des protéines, puis il en parlait, à chaque 3 heures non négociable. Fait que lui, il avait un timer, puis à chaque 3 heures.
C'était plus, moins que ça, parce qu'il mangeait 12.
Parce qu'il mangeait à chaque 3 heures.
Je pensais moins que ça.
C'est chaque 3 heures.
3 fois 12.
3 fois 12.
Moi, je dirais même à chaque 2 heures, même. Il devait manger une poirine de poulet à chaque 2 heures, littéralement.
Fait que tu sais, c'est fou parce que lui, pendant la nuit, il se mettait des alarmes aux 2 heures, 3 heures pour aller manger. Fait qu'il se faisait un shake, il se prenait un yogourt, puis après ça, il retournait se coucher. Il s'en réveillait 2 heures plus tard. Puis pour lui, la synthèse des protéines était essentielle.
Parce que ça Mais quand tu y penses, il se crapait son sommeil, là, tu sais. Fait que ça allait de poule.
Fait que c'était super intéressant comme petite étude. Fait que gang, tu sais, divisez dans le fond vos repas. Bourrez-vous pas la digestion avec un seul repas. Bourrez-vous la digestion avec 6 petits repas bien divisés, bien segmentés. 1, ça va aider votre digestion. 2, ça va aider la synthèse des protéines. 3, vous allez éviter plus le catabolisme musculaire puis vous allez avoir plus de résultats à l'entraînement. Puis 4, ne dépassez pas 40 grammes de protéines par repas. Ça ne vous donne pas grand-chose, à moins que vous soyez sur les stéroïdes ou que vous êtes une élite génétique et toute l'équipe de 300 livres, bien musclé puis tout. Mais pour le commun des mortels, pour des gars comme ma charpente de 200 livres, la charpente à Sam de 175 livres, c'est bien important de comprendre que vous n'avez pas besoin de plus que 40 grammes de protéines par repas. C'est prouvé par la science.
Selon le nombre de repas que tu prends par jour.
Selon
parce que
le nombre
si
de repas.
Parce que si tu en prends 6 versus 3, si tu prends 40 les 3 fois ou les 6 fois, c'est différent. Là.
Exactement.
Mais t'avais-tu parlé du 1 gramme par
les Non, je vais là.
OK, vas-y.
Combien de grammes devrait-on consommer?
C'était comme quand même un boss.
Combien qu'on devrait consommer? Nous, chez Phoenix, on recommande. Sam, je pense que tu as des recommandations qui reviennent aux mêmes, mais c'est juste dit d'une façon différente. Toi, je pense que c'est 1 gramme par livre.
1 gramme par livre de poids corporel. Maigre.
OK, t'es parfait, t'es identique.
Jusqu'à 1 gramme par livre de poids corporel.
Fait que ça revient absolument au même calcul. Les recommandations qu'on fait chez Phoenix habituellement, c'est 1 gramme à 1,4 grammes de protéines par livre de masse maigre. Ce qui veut dire qu'une personne, un homme pesant 200 livres, qui a 40 livres de graisse, a une masse maigre de 160. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait manger entre 160 et 220 grammes de protéines quotidiennement. Donc, on s'entend. Moi, dans ma perception et dans ce que j'ai pu voir par rapport à ma pratique, le minimum que cette personne-là doit manger, c'est 160 grammes. Ouais. C'est le strict minimum. Fait que si on veut aller, on va dire, tu sais, vraiment créer un déficit calorique puis vraiment aller taxer tous les macronutriments, ce serait pas les protéines que je toucherais en premier, mais on peut descendre jusqu'à 160 grammes et c'est ce qui va maximiser, on va dire, le fait de préserver la masse musculaire. Ça va y protéger la masse musculaire. Et le 220 grammes, c'est le maximum que cette personne-là devrait consommer pour réussir à activer la synthèse des protéines. Puis quand on est en développement musculaire, j'irais beaucoup plus travailler ça. Un, ça va apporter un effet de satiété, mais deux, ça va faire en sorte d'éviter le plus possible le catabolisme musculaire. La plupart des coachs de fitness qu'on voit sur Internet, j'en ai vu, écoute, juste cette année, là, au minimum 5-6 coachs différents dire ça, utilisent 1 gramme par livre de poids corporel. Le problème avec ça, puis je l'ai entendu, puis ça me fait capoter, tu pèses 200 livres, tu manges 200 grammes. Tu pèses 112 livres, tu manges 112 grammes. Tu pèses 300 livres, tu manges 300 grammes. Je trouve que c'est une absurdité parce que oui, la personne de 300 livres va passer son temps à manger des poitrines de poulet. 300 grammes de protéines, Sam, t'as-tu déjà atteint ça dans une journée?
Sûrement.
C'est raide en 5 ciboires. Pour de vrai, ton 2 fois 2 scoops de protéines avec ton 200 grammes de poulet, déjeuner, dîner, souper, c'est long, là. Fait que c'est des recommandations que je trippe un peu moins. Et qu'est-ce que la science dit à propos des besoins en protéines? Ça ressemble un peu à ce qu'on dit chez Phoenix. C'est différent un petit peu parce que...
En fait, Jay, juste pour revenir, tu dis que tu trippes moins. Puis la raison, je pense que je sais que tu t'es enligné, mais je sais pas si tu l'as dit, c'est que, mettons exemple de 1 gramme par livre de peau corporelle, c'est pas nécessairement que c'est mauvais. La raison pour laquelle c'est mauvais, c'est que les gens ne... n'évaluent pas leur masse maigre. Et la protéine est basée sur la masse maigre, sur le muscle exact. Principalement. Si tu pèses, comme tu disais, 300 livres, mais tu as 150 livres de graisse, donc, et donc de muscle aussi.
C'est entre 150 et 215 grammes.
Ça
ne
marche pas,
grammes.
Exactement, parce que ton 1 gramme par livre de peau corporelle, c'est bien trop, mais tu as 150 grammes qui est de la graisse, que même si tu manges de la protéine, ça ne donne rien, c'est de la graisse.
C'est pour ça que j'aime pas ça.
Ah, c'est absolument. Ça, exact, mais je voulais le dire.
La science. Une étude menée par Morton et AL en 2018 ont publié dans le British Journal of Sport Medicine qui ont effectué une méta-analyse de plusieurs études concernant l'apport de protéines et la prise de masse musculaire chez des personnes pratiquant la musculation. L'analyse a révélé qu'un apport en protéines d'environ 1,6 g par kilogramme de poids corporel ou environ 0,7 g par livre était suffisant pour maximiser la synthèse des protéines musculaires. Cependant, il est à noter que pour les athlètes ou ceux ayant des objectifs spécifiques d'hypertrophie, un apport légèrement supérieur comme 1 g par livre de masse corporelle pourrait apporter des bénéfices supplémentaires, notamment en minimisant les pertes musculaires et les phases de déficit calorique.
Donc là, ils disent 1 g par livre de masse corporelle. Ouais. Donc, c'est ce qu'on dit qu'on n'aime pas. Par contre, ils disent des athlètes.
Des athlètes.
C'est rare de voir un athlète de 300 livres avec 150 livres de gras de trop.
Absolument.
Fait que pour un athlète qui est quand même assez lean de façon générale, dépendamment de la discipline, ben c'est quand même logique, 1 g par livre de poids corporel. Mais absolument. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est ridicule.
Le docteur Hyman, dans son livre Ultra-métabolisme, j'avais trouvé ça super intéressant, mais lui, c'est lui qui avait sorti le 1 à 1,4 g. Puis dans son livre, il avait spécifié, parce que c'est un spécialiste en perte de poids, il a fait des dizaines de milliers de pertes de poids dans sa clinique. Puis il avait vraiment spécifié à l'intérieur que le but premier, c'est de toujours se baser sur la masse maigre parce que la graisse n'a pratiquement aucun besoin en protéines ni rien. Fait que comme tu as cité tantôt, des études de même ont démontré 1 g par livre de poids corporel, mais à 300 livres, 300 g, c'est aberrant. Une personne de 400 livres, 400 g, elle ne sera pas capable de manger ça. Fait que c'est comme, il y a, on va dire, il y a comme une zone grise dans tout ça. Mais en général, si on se base sur la masse maigre, entre 1 et 1,4, c'est ce que je me suis rendu compte qui était le mieux. Et rendu à 1,4, il n'y a pas d'autre effet. C'est ce qu'on appelle après ça le principe de néoglycogénèse qui va les convertir en glucose. Fait que,
il n'y a pas d'effet négatif, mais il n'y a pas nécessairement plus de bienfaits.
Il n'y a pas plus de bienfaits positifs.
Mais les mythes sur les reins, le foie, tout, c'est focal,
celui-là. Ça, on en reparlera des mythes alimentaires.
Je pense qu'on en a parlé, en fait, dans le podcast 8 sur les protéines. On doit en avoir parlé.
Peut-être. Je te laisse parler de l'autre sujet, Sam. On achève.
T'es terminé, ouais. De toute façon, ça va être quoi? Ça fait déjà une heure. Sommeil et récupération. Je pense que c'est un must. Peu importe c'est quoi l'objectif, perdre de poids, être en santé ou juste prendre de la masse musculaire. Mais là, pour les besoins de la prise de masse musculaire, tu veux bien dormir parce que c'est la récupération qui va venir avec. Puis c'est pendant le soleil, pendant qu'on regarde le soleil avec la vitamine D, c'est pendant le sommeil que le corps justement active ce qu'on parlait, ou du moins il peut activer à ce moment-là la synthèse des protéines. C'est là que tu vas récupérer, c'est là que tu vas réparer, c'est là que tu vas construire du nouveau tissu musculaire. On parle de l'hormone de croissance, on parle de la synthèse des protéines. Il y a mille et une raisons. Pendant le sommeil, tu réduis le stress, ou du moins si tu dors bien, tu as moins de cortisol. Le cortisol peut être négatif pour une prise de masse musculaire si tu l'as en excès. Tu as glissé un mot un petit peu tantôt là-dessus. Pendant le sommeil, bien évidemment, vu que tu récupères, qu'est-ce qui va se passer les jours qui suivent? Bien, tu vas avoir des meilleures performances. Parce que si tu dors bien, tu es plus focus, tu es plus énergique, tu as des meilleures performances. Qu'est-ce qui se passe? Tu es capable d'aller chercher un RPE 8-9 qui est plus logique et plus intéressant que si tu es brûlé raide parce que tu as dormi 4 heures. Ça se peut que ton RPE que tu crois qu'il est 9 soit un 5 finalement.
Absolument.
Tu comprends? Fait que tu veux avoir un bon sommeil pour la performance que ça va te donner. Et je vais aller quand même rapide parce que je pense je veux qu'on close le sujet de toute façon, mais je m'étais mis une note. Entraînement 7 jours sur 7. Okay? Beaucoup de gens posent la question. C'est-tu grave si je m'entraîne tous les jours? Et je vais donner mon take personnel. Non, c'est pas grave. Tu peux t'entraîner tous les jours. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu y ailles intelligemment. Et c'est toujours, le point était sur le sommeil et la récupération. Et c'est ça, c'est que tu veux avoir une bonne récupération. Parce que t'entraîner trop, si tu t'entraînes 7 fois par semaine, t'as de la misère à dormir 6 heures, tu manges pas tant en surplus calorique, t'as de la misère à manger tes protéines, t'es tout le temps stressé. Entraîne-toi pas tous les jours, tu vas te scraper, tu comprends? Puis versus, si tu t'entraînes 7 jours sur 7, mais il y en a deux là-dessus, c'est un petit cardio léger. Après ça, les quatre autres, c'est de la muscu avec une belle périodisation. Tu es en surplus calorique, tu dors 9 heures par jour, t'es pas stressé, tu sais, comme ça dépend. Fait que c'est tout le temps, tout à l'heure, tu parlais, c'est une zone grise. La plus grosse zone grise, c'est ça. Le nombre de fois que tu veux t'entraîner par semaine, vas-y donc par rapport à ce que toi t'aimes. Et quand tu ressens le besoin de prendre un break parce que t'es brûlé raide, dors cette journée-là, prends un repos puis repars le lendemain. Moi, je te dirais la meilleure façon, écoute ton corps, mais il n'existe pas tant de surentraînement, mais plus une sous-récupération.
Absolument.
C'est souvent de même que je l'explique.
C'est un bon point. Puis tu sais, le monde, souvent, comme un peu tantôt, j'ai cité avec mon client qui est en prise de masse musculaire, qui s'entraînait 7 jours semaine, puis qui n'était pas capable de manger suffisamment de calories. Tu sais, c'est con, mais tu reprends cette même situation-là. Si le gars s'entraîne 4 jours semaine, son surplus calorique commence à partir de 3200. S'il s'entraîne 6 jours par semaine, il commence à partir de 3400.
Ah, ouais, c'est ça,
s'il s'entraîne 7 jours par semaine, 3500. Mm. Fait que qu'est-ce qui se passe au final à travers tout ça? C'est que le fait de s'entraîner trop fait en sorte qu'il a besoin de trop manger puis il n'est pas capable d'aller atteindre ce nombre de calories-là. Le fait de diminuer ses séquences d'entraînement et de mettre plus d'intensité, moins de temps, brûle moins de calories, mais au final, il y a plus de potentiel de pouvoir avoir un surplus calorique facile. Mm. Donc, le gars, il roule à être en surplus calorique et il gagne de la masse musculaire. On va closer le sujet.
Je vais te laisser parler des suppléments. Ben, mais...
Je closerai le sujet là-dessus. On va pouvoir en parler.
Ben, vas-y. Non, mais c'est important.
Je vais glisser rapide. OK.
Sinon, moi, je vais dire. OK, ben vas-y. Dis-le
les suppléments. Les suppléments en tant que tels, on va faire ça quand même assez rapide parce qu'on veut essayer de tout le temps garder le podcast aux alentours d'une heure, 1h05, gros maximum. Fait que je vous donne, dans le fond, les suppléments les plus populaires au niveau de la perte de la prise de masse musculaire. J'étais même habitué de parler de perte de poids. De prise de masse musculaire. La créatine. La créatine, on a souvent entendu, elle a eu fausse réputation ou mauvaise réputation, un peu comme le sel, mais le sucre, lui, il se fait aller partout de même. Puis. Mais la créatine, c'est un des suppléments avec le plus d'études et le plus d'efficacité prouvée par la science pour développer de la masse musculaire, même de la performance en endurance. Ça permet de renouveler les stockages d'énergie d'ATP à l'intérieur de vos cellules. Fait qu'en tant que tel, ça augmente votre potentiel d'être plus fort, d'avoir plus d'endurance pendant l'entraînement. Ça aide vos cellules musculaires à pouvoir régénérer, à pousser une répétition de plus. C'est vraiment intéressant, la créatine, parce que, tu sais, en soi, le but premier, c'est quoi qui va se passer? C'est que ça va venir faire pénétrer de l'eau à l'intérieur du muscle. J'ai fait une bioimpédance parce que j'avais complètement plus de créatine. Puis je fais de la créatine pratiquement à l'année longue parce que j'étais en développement musculaire pratiquement à l'année longue. Puis un moment donné, j'avais arrêté pendant un mois complet. Je regarde mon niveau d'eau intracellulaire, ça l'avait diminué de 3 livres. Donc là, je suis comme tabarouette, je me dévitalise à une vitesse phénoménale. Je vais augmenter les électrolytes et tout. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, ah! J'ai complètement arrêté la créatine. C'est vrai. Fait que là, je me suis commandé un pot, j'ai recommencé à faire de la créatine. 4 jours plus tard, j'avais à peu près 3 livres de plus dessus le corps. Fait que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est 3 livres de muscle? Absolument pas. C'est 3 livres d'eau qui va pénétrer à l'intérieur de votre muscle et qui va permettre justement, un, le meilleur transport de nutriments, parce que qui dit eau transportée dans un muscle ou cellule, dit nutriments, vitalité et tout. 2, ça va faire en sorte que le muscle a tendance à être plus, on va dire, lubrifié, les articulations aussi et tout, moins de chances de claquage musculaire, moins de chances de blessure. Fait que la créatine, il y a plein de bons effets positifs. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. On fera un podcast juste sur les suppléments et toutes les kits. Ça va être super intéressant pour ça. On a un, je pense, mais c'est comme dans saison 4-5, là, de quoi de même. Fait que la créatine, pour être bien honnête avec vous, n'ayez pas peur de ça. La science a démontré hors de tout doute que si vous ne vous lourdez pas à 50 grammes par jour en quantité phénoménale puis que vous ne buvez pas d'eau, c'est là que ça va arriver les problèmes. Mais si tu bois ton 3 litres d'eau par jour, 2 litres d'eau par jour, que tu prends ton petit 5 grammes de créatine et que tu le segmentes, on va dire, admettons, une périodisation de 3 mois, t'en prends, après ça, t'arrêtes un mois ou deux, après ça, t'en reprends 3 mois, il n'y aura pas d'effet nocif. Puis, tu sais, j'ai pas la science devant moi, j'ai pas les études prouvant les potentiels effets sur les reins. Mais je suis sûr et certain que c'est arrivé un jour dans les années 80, quand John May, briseur de cœur tremblé, est arrivé, puis il s'est dit « Moi, je vais faire de la créatine, je vais être gros. » Fait que là, il est allé chez Popeye, puis là, il s'est pris une scoop de créatine. Le lendemain, il s'est dit « Caroline, j'ai pris de la masse. » Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre 20 scoops. Fait que là, il a commencé à prendre full de scoops. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à se scraper les reins parce que le corps l'éliminait. C'est typique ça. Puis tu sais, dans le domaine de la supplémentation, c'est toujours ça que...
Je vais être gros.
Tu sais, après ça, ça a passé dans le journal de dans le journal. Puis après ça, le monde, créatine, c'est dangereux. Puis le grand titre, puis tout. Puis après ça, ça a fait de polémique. Mais en soi, c'est un supplément qui est ultra, ultra, genre... Il y a beaucoup de papiers autour de ça. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup d'effets. Écoute, ça fait des cinquantaines d'années que c'est utilisé par tous les athlètes ou presque. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de risque à ça. Fait qu'ayez pas peur, c'est juste extrêmement bon pour la performance. Puis tout homme qui souhaite développer de la masse musculaire, même les femmes, un petit 5 grammes de créatine, c'est super bon. Vous mangez de la viande rouge, puis il y a de la créatine dedans. Deuxième, les BCAA. Personnellement, les BCAA...
Je vais revenir sur la créatine, c'est important. Parce qu'il y a 2-3 affaires que je vais ajouter qui sont importantes. Premièrement, c'est le supplément le plus étudié au monde.
Le plus étudié.
Fait que genre, toutes les mythes sur le grain, le foie, les problématiques de peu importe c'est quoi, ça a été démystifié maintes et maintes fois.
J'aurais aimé avoir pas peur de ça.
Je pourrais les ressortir parce que j'ai lu beaucoup sur la créatine récemment. Deuxièmement, tu parles de créatine monohydrate. C'est la seule qui a été prouvée qui fonctionne. Monohydrate, ça rétentionne de l'eau. Donc, pourquoi qu'on a l'impression qu'on fait de la rétention d'eau? Mais tu fais de la rétention d'eau intracellulaire. Fait que c'est une bonne affaire. Mais c'est la monohydrate. Essayez pas d'essayer d'autres sortes de créatine. Essayez de trouver plein d'affaires sur le marché pour faire du cash. C'est la monohydrate. Et troisième affaire, et je l'ai oublié, je me l'étais pris en note. Ah, c'est ça, c'est, tu parlais du t'as pas parlé de dosage, tu disais de prendre... en fait,
on n'a pas besoin de faire de force de loading.
Non, tu n'as pas besoin. Ben, tu peux, mais comme idéalement, c'est 5 grammes. Puis je veux juste ressortir, juste reverse une affaire que tu as dit. Moi, je roule la créatine à l'année longue depuis les 4 dernières années. J'ai jamais eu de problématique. Et c'est de plus en plus prouvé que tu devrais rouler à coup de 5 grammes à peu près par jour, qui est à peu près qui est le scoop de créatine que tu as dans les pots de créatine à l'année longue. Il y a plein de bienfaits. Autant au niveau de la prise de masse, qu'on reviendra à un moment donné sur ça, mais plein de bienfaits sur... Ouais, mais mettons, mental, il commence à avoir plein de bienfaits au niveau du cerveau. Mais prise de masse musculaire, c'est un must. Si tu veux prendre de la masse musculaire, tu prends pas de créatine, tu te tiens dans le pied,
ouais, ben littéralement. En fait, tu es un allié que tu rentres pas dans ton corps, qui est très facile, qui est très sain, qui est très fiable, puis qui est pas dangereux. Puis tu sais, en soi, tout ce qui peut augmenter ton eau intracellulaire va être bon pour ta santé. Parce que ton but, c'est vitalité, plus. Le deuxième, les BCAA, fait que leucine, isoleucine et valine. Si tu manges suffisamment de protéines, ton 1 à 1,4 g de protéines par livre de masse maigre, c'est un supplément qui te coûte 39,99 par mois pour pas grand-chose, pour être bien honnête. C'est bon pour le goût, puis il y a du monde en général qui peuvent avoir des fois de la misère à boire du 3 du 4 litres d'eau, fait que c'est super pratique. Les BCA, moi, comment je les fais utiliser, c'est chez des personnes qui vont courir beaucoup, qui vont avoir tendance à activer beaucoup le catabolisme, ou chez des personnes, exemple, qui sont, moi, un bel exemple parfait, une personne est dans sa troisième phase au niveau de sa périodisation de perte de poids. Il commence à embarquer le cardio à jeun un petit peu plus, fait que là, qu'est-ce qui va se passer? On veut essayer d'aller brûler de la graisse et préserver la masse musculaire. Fait qu'on va lui donner des BCAA qui vont permettre d'aller protéger un petit peu plus sa masse musculaire pendant son cardio. Fait qu'il va recevoir la leucine, isoleucine et valine qui va activer la synthèse des protéines. Mmh. Fait qu'au final, cette personne-là va préserver ça. Mais dans d'autres cas, souvent, c'est 39,99 par mois qui ne te coûte pas grand-chose. Fait que faites-vous pas trop avoir avec ça, gang. Les EAA, c'est pratique pour les personnes qui sont véganes. On en avait parlé un moment donné. À part de ça, si tu manges assez de protéines de source animale puis que tu complètes tes chaîne d'acide aminé, c'est 49,99 par mois.
C'est plus.
Protéines en poudre, selon moi, les isolates de protéines, les protéines de bœuf, même les protéines véganes, peu importe quoi, la protéine en poudre, c'est probablement un des suppléments les plus, on va dire, utilisés. Puis c'est un des suppléments les plus pratiques, selon moi, parce que lorsque tu arrives en développement musculaire, tu as un non négociable. Puis tu sais, un non négociable, ça le dit, c'est un non négociable. Le non négociable, c'est de manger toutes tes protéines et d'être capable d'aller segmenter tout au long de ta journée. Fait que les protéines en poudre, ça peut être une collation extrêmement efficace et rapide. Ça se cale pendant que tu es dans ton char, ça se cale entre deux réunions, ça se cale pendant même que tu es au téléphone, tu peux prendre une gorgée. Fait que le but, c'est juste d'être capable de rentrer un 27 à 30 grammes de protéines par scoop. Fait que moi, je donne un exemple. En ce moment, je dois manger aux alentours d'un 220 grammes de protéines. Et je ne suis pas, on va dire, tu sais, j'aime la viande, j'adore la viande, j'en mange énormément, mais j'ai de la misère à manger plus que des 150 grammes de viande. Je dois segmenter en plusieurs petits repas. Et de prendre un shake de protéines à ma collation le matin, un shake de protéines à ma collation du midi, me facilite extraordinairement beaucoup la vie parce que j'ai moins à me casser la tête avec des gros repas de viande. Ça me permet de segmenter plus. Fait qu'une scoop de protéines dans votre collation, c'est parfait pour ça. Très pratique, ça dépend. Et il existe d'autres plantes thérapeutiques, des affaires de même pis tout. Honnêtement, tu sais, mettons...
Le prêt à 35, je sais que t'as le coup de le dire.
Il y a une molécule qui roule sur le marché, mais qui est très peu connue, qui s'appelle le turcostérone. En tant que tel, c'est un mimique d'une hormone. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'une plante, puis il y a beaucoup d'études qui prouvent son efficacité. Le turcostérone, T-U-R-K-E-S-T-E-R-O-N-E. Puis, tu sais, en tant que tel, il y a un gars qui avait comme popularisé ça, qui était Greg Doucet, puis... C'est un coach dans le domaine du fitness et du bodybuilding. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il avait expliqué au niveau du turcostérone? C'est que c'est un mimique de la testostérone naturelle chez l'homme et ça va faire juste tout simplement augmenter les niveaux de testostérone. C'est intéressant, c'est des affaires qui peuvent aider à la prise de masse musculaire. Puis les études prouvent, je l'ai ici, je crois, dans une petite seconde.
On m'a l'étude prouve, c'était genre sur des rats avec trois études.
Sur l'humain aussi, ils ont vu, mais c'est parce que... Quand on parle d'études, c'est des études préliminaires. Ça veut dire qu'ils ont vu un gain de masse musculaire. Tu sais, je l'ai ici. Mais oui, c'est en lien avec les rats dans ce cas-là. Mais c'est ça la molécule. Phytoecdystéroïdes qui sont structurellement similaires ou identiques aux hormones des insectes produisent une gamme d'effets chez les mammifères, notamment l'augmentation de la croissance et des performances physiques. Pour étudier le mécanisme d'action des phytoecdystéroïdes dans le tissu du mammifère, un test cellulaire in vitro de la synthèse des protéines a été développé. Dans les myotubes C2 et C12 et les myotubes primaires humains, les phytoecdystéroïdes ont augmenté la synthèse des protéines jusqu'à 20 %. Puis ça, en tant que tel, c'est un complément alimentaire qui se vend. Fait que tu sais, il en existe plein, comme le zinc a démontré des effets sur l'augmentation de la testostérone qui peut avoir un lien, on va dire, indirect et direct sur le développement de la masse musculaire. Est-ce que, selon moi, ça vaut la peine? C'est l'alimentation, puis c'est l'entraînement, puis c'est la synthèse des protéines qui va faire 99,9% de tout.
Surtout pour des personnes qui commencent à s'entraîner, je veux dire, va
pas te chercher du turcosterone.
Mais mettons que ça fait genre 100, pas 100 ans, mais ça fait genre 20 ans que tu t'entraînes, ça va, tu sais, puis tu veux une petite affaire de plus. Je pourrais, encore une fois, on le répète, là, on est naturopathe, là, allez consulter votre pharmacien, docteur tout le temps si vous prenez des suppléments, mais le point est de dire qu'est-ce qui pourrait peut-être potentiellement aider. Je sais qu'on a parlé rapidement tantôt, tu n'avais pas vu
passer ça. Mais la base, de toute la base, manger des repas de façon 20 à 35 grammes, de façon segmentée 6 fois par jour, manger en surplus calorique, faites le test graduellement avec une ascendance métabolique, entraînez-vous avec beaucoup d'intensité, essayez le plus possible de bien dormir, faites en sorte de prendre la créatine et faites en sorte de juste tout simplement aimer le processus puis de faire ça sur le long terme.
C'est puis tout ce que une bonne fréquence d'entraînement.
Une bonne fréquence, c'est sûr. Tu t'entraînes une fois, puis l'autre semaine, quatre fois, puis l'autre semaine, zéro fois, puis l'autre semaine. C'est ça.
Non, mais une fréquence dans le sens de refaire les
de
muscles.
De t'entraîner régulièrement le même muscle.
Fait le cours, le tour, pas mal, loin. Ouais. Merci. Ça fait-tu le tour, moi?
Ouais.
OK, merci pour le podcast d'aujourd'hui.
Merci énormément d'avoir été présent, gang. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un 5 étoiles, partagez le podcast à ceux-là. On donne beaucoup de valeur. Fait que s'il vous plaît, si vous trouvez que ça vous a apporté des points, de la valeur et tout le kit, c'est un sujet d'habitude que, tu sais, on parle de moins en moins parce qu'on se spécialise en perte de poids et en tout ce qui est gestion pathologique, on va dire, et tout. Mais tu sais, si on regarde en tant que tel le sujet de la prise de masse musculaire, c'est des sujets qu'on a beaucoup touchés dans notre passé à nous quand on a commencé dans le domaine. Ça nous intéresse encore, mais on en fait beaucoup moins. Fait que si vous avez aimé ça, partagez-le, s'il vous plaît. Laissez-nous un 5 étoiles. Allez nous ajouter sur la page Facebook Clinique Phoenix. Comme ça, vous allez pouvoir garder contact avec nous tout le temps. Nous autres, on publie plusieurs choses là-dessus. Fait que, gang, merci énormément d'avoir été présent. On se voit vendredi prochain pour le prochain podcast.
Juste à dire, tu dis qu'on en fait moins. C'est vrai qu'on a moins de ça que d'autres choses, mettons. Mais moi, j'adore quand les personnes viennent me voir pour ça. Puis, tu sais, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup, beaucoup pour la course, comme je te disais. Mais j'adore
la performance,
si vous
en
avez besoin, venez nous voir.
Mais la prise de masse musculaire, avant, c'était 80% de notre clientèle. Puis là, à cette heure, c'est rendu 2%. Fait que merci beaucoup, gang, d'avoir été présent.
Merci. Bonne journée.